OK, 18h20, ma prochaine invitée s'appelle Nathalie Staquet-Doucet. Elle est infirmière et présidente de l'Association québécoise des infirmiers infirmières. C'est un OBNL qui n'est pas l'Ordre, qui n'est pas le syndicat des infirmières. C'est un OBNL qui fait la promotion de l'engagement politique des infirmières. Dans le fond, donner une autre voix à cet important corps de métier. Elle est au bout du fil, Madame Staquet-Doucet. Bonjour.
Bonsoir, M. Lagacé.
On va parler des propos de Danielle McCann, la ministre de la Santé, à Tout le monde en parle hier, là, des propos qui ont fait sursauter beaucoup de gens dans le milieu de la santé. Là, mais juste avant, je sais que vous avez eu un diagnostic positif de COVID le 29 avril, fait que je voulais vous demander comment ça va d'abord.
Ah, ben merci, ça va beaucoup mieux. J'ai plus vraiment de symptômes sérieux. Là, encore un peu de fatigue, mais on se demande toujours si c'est lié à la COVID ou juste au fait d'être resté chez soi aussi longtemps sans pouvoir sortir. Là, l'endurance diminue un peu. Donc, c'est ça. J'ai eu un autre test positif samedi. Donc, j'ai très hâte de pouvoir sortir de chez moi.
Donc, mais ça va mieux, mais il y a encore du virus en vous, c'est ça?
Exactement.
Comment ça s'est passé? Est-ce que vous savez à quel moment, dans quelles circonstances vous l'avez attrapé quand vous étiez soignante?
C'est dur à dire exactement quel jour, dans quel contexte exactement, mais j'ai travaillé dans un CHSLD qui avait énormément de je veux dire, la vaste majorité des patients étaient infectés avec la COVID. On a eu beaucoup de personnes en fin de vie et donc j'ai donné énormément de soins de fin de vie parce que c'est une des affaires les plus déchirantes pour un soignant de ne pas pouvoir être là pour des personnes pendant leurs derniers instants. Donc, j'étais beaucoup dans des chambres avec des résidents qui étaient en fin de vie. Puis on pense maintenant que c'est parmi les personnes qui ont la plus haute charge virale et surtout dans des vieux bâtiments de CHSLD, des fois la ventilation n'est pas toujours top, comme on dit. Donc, j'imagine que ce serait dans ce contexte-là que j'aurais pu l'attraper.
Bien, j'ai interviewé Dr Richard Marchand, qui est microbiologiste infectiologue. Puis, en fait, ce qu'il me disait vous donne raison. Les patients en fin de vie de la COVID âgés, bien souvent, ce sont les personnes les plus contagieuses. Aviez-vous du bon équipement quand vous étiez en CHSLD?
On avait du bon équipement. On avait de l'équipement. On a manqué de jaquettes à quelques reprises. Les N95 étaient, on donnait ça au compte-gouttes et on nous demandait d'utiliser autant que possible, pas plus de 2 masques de procédure par corps de travail. Donc, en général, ils avaient un masque de procédure mavidiaire et une jaquette de protection X. Là, on a eu toutes sortes de jaquettes de protection. On nous a même demandé d'utiliser des jaquettes de patients à un moment donné. Donc, c'était pas toujours l'idéal, mais j'ai quand même je suis une professionnelle de santé, je suis infirmière, donc j'ai quand même des connaissances sur la prévention et le contrôle des infections. Et donc, j'ai fait le plus attention que je pouvais dans ce contexte-là, mais à ce moment-là, en termes des aérosols, c'était moins clair l'information qu'on avait contrairement à maintenant. Donc, j'aurais probablement, en CHSLD, les soignants devraient probablement tous porter un N95 et pas juste simplement des masques de procédure.
Qui est le masque, le N95, qui est le masque le plus performant?
Absolument. C'est un masque qui protège la personne qui le porte, contrairement au masque de procédure, qui est plutôt pour protéger les autres personnes. Donc, le masque de procédure filtre rien. Le masque de procédure, c'est pour empêcher que des gouttelettes, si disons, moi j'ai un masque de procédure et je tousse, le masque de procédure va retenir les gouttelettes ou une grosse partie des gouttelettes dans ma toux, versus le N95 va aller filtrer les particules de l'air que moi je respire. Donc, la protection se situe à un endroit différent que le N95, qui est beaucoup plus efficace et qui est une beaucoup plus grande protection pour les personnes qui le portent.
OK, on parle avec Nathalie Staquet-Doucet, qui est infirmière et présidente de l'Association québécoise des infirmiers infirmières. Et j'ai vu un statut Facebook que vous avez publié en réaction aux propos de Danielle McCann hier sur le déplacement du personnel soignant dans le réseau de la santé. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. Avant de vous demander votre point de vue là-dessus, Mme Staquet-Doucet, on va écouter ce que Mme Danielle McCann a dit hier à Guillaume Lepage.
On l'a interdit assez rapidement, mais nous, on partait de très loin. Parce que l'organisation de services là, qu'il y avait dans les CIS et les CIUS favorisait justement un travail à temps partiel puis des gens qui allaient dans différents établissements selon les conventions collectives. Pour se faire une semaine complète. Ouais. Alors, on a cessé ça le plus rapidement qu'on a pu, mais ça a été toute une réorganisation Il y avait aussi les agences de placement.
Madame McCann a dit on l'a interdit assez rapidement. Et vous, dans un statut Facebook là, qui fait écho à ce que j'ai lu là, depuis hier, vous dites que ça n'a jamais été interdit le déplacement de personnel entre CHSLD.
À ma connaissance, absolument pas. Il y a eu des recommandations d'interdire ça. Donc, on a recommandé d'interdire, on a recommandé d'empêcher, mais il y a une grosse nuance entre ça puis interdire formellement une pratique, comme ils l'ont fait en Colombie-Britannique, par exemple. Ils n'ont pas juste recommandé, ils ont pris des mesures pour s'assurer que le personnel ne changerait plus de CHSLD.
Pour ne pas transporter, vraiment, pour ne pas que les gens qui sont porteurs du virus le disséminent partout.
Exactement. Et on sait que les travailleurs de la santé, particulièrement en CHSLD, on est vulnérable, on est aussi des vecteurs importants de cette maladie-là. Donc, de nous garder, autant d'un point de vue de freiner la transmission, mais aussi pour la qualité des soins. C'est sûr que c'est beaucoup mieux pour notre qualité de vie, pour la qualité de vie des personnes qu'on soigne, si on reste dans les mêmes équipes, si on a une certaine continuité dans les soins qu'on donne avec nos collègues.
Il y a plusieurs travailleurs là, depuis le début de la pandémie qui ont témoigné du fait que, bon, un peu comme vous, oui, on a de l'équipement, c'était pas vraiment du bon équipement. Dans certains CHSLD, on pouvait se promener d'une zone chaude à une zone froide. Dans certains, c'était bien réglementé. Vous, votre expérience, ça a été quoi en termes de respect des zones chaudes et des zones froides dans CHSLD, Mme Stacquet-Doucet?
Ben, c'est sûr que je peux pas parler pour l'ensemble du réseau. C'est clair qu'il y a des endroits où ça va beaucoup mieux que d'autres. Moi, mon expérience était en CHSLD, dans un seul CHSLD, mais comme présidente de l'ACI, j'ai l'occasion d'échanger avec énormément d'infirmières de partout à travers le Québec. Et en CHSLD, on est encore loin de respecter toutes les dans certains CHSLD, en tout cas, on est encore loin du respect strict des normes des recommandations de la santé publique. Donc, les zones chaudes, les zones froides. Madame McCann elle-même l'a mentionné en conférence de presse qu'il n'y avait pas de problème à travailler une journée dans une zone froide et une journée dans une zone chaude et ensuite revenir en zone froide. Donc, l'interdiction dont elle parle semble plutôt liée à une recommandation du ministère qui dit que le personnel ne devrait pas se déplacer à l'intérieur même d'un corps de travail. C'est important, effectivement, ça ne devrait jamais se faire. Sauf que c'est pas tellement plus sécuritaire non plus que dans la même semaine, un travailleur de la santé se promène dans deux ou trois CHSLD, en zone chaude, en zone froide. Et je comprends que, oui, on prend toutes les précautions nécessaires, mais en même temps, avec juste un masque de procédure, avec les visières, maintenant que j'ai lu un article ce matin qui questionnait l'utilité des visières. Donc, c'est sûr que ce serait beaucoup mieux d'avoir des équipes qui sont dédiées, donc une équipe qui reste toujours sur la même unité, dans le même CHSLD et qui ne bouge pas. C'est sûr, ce serait une mesure qui est beaucoup plus sécuritaire. Et ça, on est encore loin d'arriver à ça, à ma connaissance, en CHSLD à Montréal.
Vous avez envoyé un courriel pour signaler que cette pratique-là avait encore cours au ministère, là, avec le courriel « On vous écoute ». Racontez-nous, ça a été quoi la réponse, puis ce que ça veut dire à vos yeux?
Ben, j'ai été très déçue, en même temps pas particulièrement étonnée. Là. La boîte courriel, je me demande vraiment à quoi ça sert. On nous l'a un peu vendu comme un endroit pour les lanceurs d'alerte et on a semblé, dans mon opinion en tout cas, insinuer que ce courriel-là, les choses qu'on dénoncerait, il y aurait des actions qui seraient prises, il y aurait un suivi qui serait fait. La réponse que j'ai eue, ce que j'ai dénoncé, c'est que dans la même soirée, on m'a demandé de travailler et dans une zone chaude et dans une zone froide, ce que j'ai refusé, évidemment. Mais je veux dire, ça semblait une pratique assez courante où je travaillais. Et j'ai reçu essentiellement une réponse qui était un copier-coller des recommandations qui sont déjà sur le site du ministère, donc pas du tout personnalisées, qui adressaient pas du tout les enjeux que j'avais soulevés, qui me forwardaient essentiellement des recommandations sans me dire à qui je devrais m'adresser, qu'est-ce qui va être fait, aucun engagement, quel que soit à prendre des actions ou à venir aider ou à intervenir dans ce milieu-là. Donc, vraiment, je pense que ce serait beaucoup plus efficace pour les travailleurs de la santé de contacter la commission des normes de la santé et sécurité au travail plutôt que le courriel « on vous écoute » parce qu'on risque d'avoir beaucoup plus de réponses puis d'actions qui viennent de la FNIRT que l'on vous écoute.
Donc, peut-être prendre le chemin de la santé sécurité au travail plutôt que de prendre le chemin de l'employeur.
Oui, si on a l'occasion de le faire en ce moment, ça semble être mieux. C'est sûr que si vous avez des employeurs, si vous avez des employeurs, c'est un grand mot, c'est qui l'employeur au juste? C'est pas une personne. Donc, si vous avez des gestionnaires que vous connaissez qui sont ouverts à vous écouter, c'est toujours mieux de s'organiser dans son milieu parce que c'est souvent plus efficace et plus rapide. Mais le courriel, on vous écoute absolument. J'ai pas l'impression, avec la réponse que moi j'ai eue dans mon expérience personnelle, qu'il y ait quoi que ce soit qui va être fait suite aux dénonciations. Ça semble plutôt être quelque chose pour nous écouter, peut-être pour nous rassurer, mais de là à tout ce qui c'est correct, mais on nous l'a vendu comme quelque chose qui nous aiderait à faire bouger peut-être les choses, et ça semble pas du tout être le cas. Donc, la commission de santé et sécurité au travail semble beaucoup plus efficace, le syndicat si possible, vos collègues de travail. Moi, au travail, mes collègues ont été très solidaires, on a été capables de s'entraider, et de s'assurer qu'on était en sécurité et que les résidents aussi. Mais vraiment, on vous écoute. J'ai été très déçue de la réponse complètement impersonnelle que j'ai reçue.
Bien, merci Nathalie Staquet-Doucet et prompt rétablissement.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci. C'était Nathalie Staquet-Doucet qui est présidente de l'Association québécoise des infirmiers et infirmières. Nous racontait son expérience dans les CHSLD de passage de zone froide à zone chaude et vice-versa. Et elle a reçu un diagnostic positif de coronavirus le 29 avril. Un nouveau test positif samedi dernier. Il est 18h31. Restez là, au retour. Fabienne Larocher est là.